trois Valaisans, et il y avait trois Italiens. Et un de ces Italiens s'appelait Tino, comme Tino Rossi. Et la chanson que je vais vous donner est tout à fait différente. Elle a un son beaucoup plus triste et beaucoup plus douloureux. Alors je vois qu'on distribue les courriers, on distribue à cet homme, à cet ouvrier italien qui s'appelait Tino, on lui distribue 5 lettres. Alors il regarde les lettres, consulte l'oblitération postale, les dates, il les casse par ordre du temps et il se met à les ouvrir. Alors dans la première lettre, sa femme lui annonçait qu'elle était malade, elle avait un peu de bronchite, mais que cela n'était rien du tout, qu'il ne fallait pas, surtout pas qu'il se fasse du souci. Il continue à lire la lettre, puis il en ouvre une autre. Dans cette autre lettre, il pouvait y avoir, je pense, une semaine, 15 jours de décalage, mais tout était arrivé au même moment. Dans cette seconde lettre, son épouse lui disait toujours qu'elle continuait à avoir de la bronchite et qu'elle était allée chez le médecin, mais qu'il ne fallait pas qu'il se fasse du souci, que cela finirait par s'arranger. La troisième lettre, c'était un petit peu la même chose. Dans la quatrième lettre, il était mentionné, tu sais Tino, j'ai quand même mal. J'aimerais bien que tu reviennes. Alors forcément, l'homme prostré, abattu, ne lit pas tout cette quatrième lettre et prend la cinquième, puis la dernière. Et puis alors là, brusquement, nous le voyons s'affaisser sur la table, il renverse les verres, il était pâle. Il n'avait plus de larmes, il était comme hébété, comme s'il avait perdu la raison. Et alors nous avons pris la lettre. C'était la sœur de sa femme qui lui annonçait que son épouse était morte. Et cela faisait déjà près d'un mois. Alors il était peut-être 3 heures du matin, cet homme n'a plus bougé de la table. Et il n'a plus mangé, plus bu pendant 3 ou 4 ou 5 jours. Puis on a réussi à atteindre l'hélicoptère, il est parti par l'hélicoptère et nous ne l'avons jamais plus revu. Donc c'est pour dire qu'il y a des situations, il y avait des situations dans les barrages et qui dépassent l'entendement, qui vont plus loin que ce que nous pouvons imaginer, je ne dirais pas dans l'horreur, mais dans la souffrance. Je crois que ce sont des moments auxquels un homme de sensibilité, ne peut oublier d'une part, et d'autre part, doit de temps en temps les évoquer, ces situations-là, parce qu'elles nous disent, mieux que l'histoire, ce qu'une rupture de civilisation a pu coûter pour un mieux-être de drame et de tragédie. Ce que nous avons tendance à appeler aujourd'hui des cathédrales, que sont les barrages, Je crois qu'il ne faut pas oublier que derrière eux, il y a aussi des cimetières. Mais des cimetières qu'on a oubliés. Qu'on a oubliés pourquoi ? Non par ingratitude, non par parce qu'on veut les oublier, mais simplement parce que l'histoire n'a pas voulu retenir la souffrance des hommes, elle n'a voulu enregistrer que la victoire d'une société industrielle. Ce passage sans transition du système primaire, qui était notre paysannerie, qui était notre manière de vivre, qui était notre façon de penser, faisait que nous vivions un petit peu en dehors du temps parce que nous étions dans l'horaire du soleil. Nous avions nos misères, certes, mais nous avions nos loisirs dans le travail. Je sais que les jours étaient longs. Les jours commençaient avec la fin de la nuit et ils se terminaient avec le commencement de l'autre. Mais il y avait, dans ce sacrifice librement consenti, il y avait une grandeur. Il y avait une sorte d'immensité auquel je suis reconnaissant. Parce que je suis persuadé que sans avoir traversé ces moments de souffrance, ces moments de désespoir, je n'aurais pu, avec le temps, recouvrer la foi en l'homme qu'à une certaine époque, j'avais perdue. Aujourd'hui, quand je vois notre civilisation dans le confort, dans ce confort parfois de gaspillage, mais auquel nous nous accommodons tous. Quand je vois cette civilisation, en tous les cas extérieure, donc de confort formel, je me pose la question de savoir si nous n'avons pas perdu un petit peu ou beaucoup de notre confort intérieur. C'est-à-dire de ceux qui faisaient la lumière dans la nuit et de ceux qui faisaient notre confiance dans le drame. Quand j'ai en mémoire le cheminement que je faisais de la maison à l'église, parce que je tiens à ces maisons. Vous savez, ces maisons familiales, où il y avait le fourneau à bois, où il y avait le poêle dans la chambre, ces maisons familiales, elles me sont chères. Pourquoi ? Elles me sont chères parce que elles nous permettaient de dialoguer. Elles nous permettaient d'aller les uns à l'intérieur des autres. Nous nous aimions et nous le disions. Nous partagions vraiment. Et quand je me rendais d'une de ces maisons à l'église pour aller me confesser, et que je sortais de confession avec la punition afférente, c'est-à-dire le nombre de pater, le nombre de ave que je devais réciter pour que soit confirmée mon absolution, je me sentais libéré, je me sentais totalement délivré. Je me sentais léger. Or aujourd'hui, on va de moins en moins en confession. Mais on va de plus en plus chez le psychiatre. Ce qui signifie que nous avons remplacé le confesseur par le psychiatre. À la différence que, d'un côté, l'absolution par la pénitence nous guérissait complètement de notre sentiment de culpabilité ou de notre désordre intérieur, alors qu'aujourd'hui, en sortant du psychiatre accablé de pilules, nous nous apercevons que nous n'entrons plus dans la lumière, mais que nous entrons dans les ténèbres, dans une sorte de circuit infernal où, au lieu de déboucher vers l'espérance, nous débouchons très souvent vers des fuites. Et quand je parle de fuites, je pense à la drogue, je pense à ce mal de vivre qu'expriment parfois les jeunes en voulant se suicider ou en se révoltant. Alors à la conclusion, j'en arrive à m'interpeller et à me dire, qu'est-ce que c'est qu'une véritable civilisation ? En possédant tout ce que nous désirons, ce qui devrait être le cas aujourd'hui, eh bien, nous nous apercevons que nous n'avons pas encore suffisamment et que le nombre de nos convoitises, au lieu de régresser, ne cesse d'augmenter. Nous voulons toujours plus, non pour un mieux-être, mais paradoxalement pour nous créer des surcroîts de problèmes. Alors que, autrefois, comme nous n'avions rien, il n'y avait pas de convoitise. Et à partir du moment où il n'y avait pas de convoitise, nous nous contentions de ce que nous possédions. Il me semble que ce goût du pain que nous vénérions autrefois, nous l'avons perdu aujourd'hui. D'ailleurs, jadis, personne ne se serait permis de jeter un morceau, même vieilli, même rassis, un morceau de pain. Or, aujourd'hui, je prendrai le pari que dans tous nos sacs de poubelle, il y a des quartiers de pain. Je crois que là, nous devons tous avoir mal à l'âme et mal à notre conscience. Surtout, et c'est là que je vais tirer un peu ma conclusion. On me laissera encore un petit peu de temps. Si vous vous sentez fatigué, vous sifflez en allemand, je comprendrai en français. En parlant du pain, je voudrais avoir un mot de solidarité pour tous ces enfants kurdes qui, de malnutrition, meurent dans les bras de leur mère, totalement impuissante, des centaines par jour, sur des hauts plateaux glacés, dans la neige. Ces mères qui pataugent dans une sorte de bourbier vert. Vert par quoi ? Par toutes les dysenteries commises par les maladies et les infections de ce peuple opprimé. Alors là, oui, j'ai mal, je souffre. Et je me pose la question de savoir s'il y a un droit international pour mettre quasiment à genoux un tyran qui s'est approprié un État indûment et pour le forcer à le restituer. Je me demande pourquoi il n'y ait pas un droit moral qui permette à ces mêmes peuples de pouvoir mettre un terme à un génocide aussi dégradant que celui qui se produit au Moyen-Orient. J'ai une image qui me vient en mémoire comme ça, abruptement. Il y a une dizaine d'années, l'université de Tel Aviv m'avait invité pour recevoir un de ces fameux doctorats honoris causa, parce que j'avais été pendant 10 ans professeur dans un institut juif, et j'avais enseigné environ 1000 élèves. Et tous ces élèves étaient repartis dans les 4 coins du monde avec un diplôme de français qui était attribué par l'État de Vaud, par le département de l'instruction publique et des cultes, ça s'appelle comme cela, dans le canton de Vaud. Alors tous ces élèves étant partis dans les 4 coins du monde, la diaspora, l'histoire des Juifs, certains d'entre eux étaient arrivés à devenir professeurs justement dans cette université de Tel Aviv, donc la capitale d'Israël. Alors, on m'avait convié à venir justement parler de l'expérience que j'avais vécue avec ces jeunes juifs de 14, 15 ans jusqu'à 20 ans. J'ai refusé. Je regrette aujourd'hui. Je regrette aujourd'hui parce que je me dis qu'avec ce doctorat-là, je pourrais peut-être aller enseigner la paix à Bagdad. Maintenant, pour clore, j'aimerais, comme j'ai commencé par ma mère, j'aimerais revenir à un mot que ma mère me répétait souvent. Elle me disait: nous venons au monde pour nous apprendre une seule chose. Elle marquait toujours un silence, puis elle répétait sa phrase. Nous venons au monde pour apprendre une seule chose. Alors j'ouvrais tout grand mes yeux. Je savais ce qu'elle allait me dire. Mais j'attendais qu'elle me le dise parce que, à chaque fois, c'était différent. Parce qu'à chaque fois, elle y mettait un peu plus de son cœur et de son âme. Elle me disait donc: nous venons au monde pour nous apprendre une seule chose, à nous aimer. Je crois que c'est la seule vérité qui devrait nous habiter, d'où que nous soyons, d'où que nous venions et où que nous allions. Nous aimer. Nous aimer dans la communion comme dans la différence. nous aimer dans la joie comme dans la paix. Et essayer, sinon de partager, parce que partager n'est pas toujours facile, du moins de comprendre. Parce que en comprenant l'autre, c'est déjà tendre nos bras pour l'accueillir. J'ai gardé expressément un petit moment de silence pour vous remercier très profondément et non sans émotion de m'avoir écouté pendant près d'une heure et demie avec autant d'attention et de dévotion. Pensez bien, et croyez-le, que je garderai de cette soirée que j'ai échangée avec vous un peu de ce goût du lait cher au souvenir de ma mère, et beaucoup, oui beaucoup, de cette notion de famille à laquelle je suis très attaché et à laquelle je souhaite une pérennité renouvelée dans la Renaissance. Je crois, oui, je crois que quand un enfant aujourd'hui dit à son camarade, je rentre à la maison, et qu'en réalité il rentre dans un appartement qui n'est pas le sien, eh bien je crois que cet enfant-là d'aujourd'hui, de la civilisation dite électronique, je crois que cet enfant-là parle le même langage que l'enfant qui vit en moi le parlait il y a plus de 50 ans. Et que vous-même, également, de temps à autre, vous devez ressentir. Rentrer à la maison, c'est pour moi rentrer dans la vie, et je crois que pour un enfant, c'est rentrer dans l'amour. Merci beaucoup.
Damen und Herren, was soll man nach einer solchen Ansprache sagen? Ich möchte Herrn Metral ganz herzlich danken für das, was wir von ihm gehört haben. Wir haben gehört, was ein außerordentlicher Mensch im Unterwall ist, denkt, wie er fühlt und was er uns zu sagen hat. Ich habe den Eindruck, dass diese Gedanken, die wir hörten, gar nicht so verschieden sind von den Gedanken, die wir auch im Oberwallis haben. Die Themen, die Herr Metral uns vorgelegt hat, finden wir auch größtenteils in den Werken unserer eigenen Schriftsteller im Oberwallis. Die Armut, der seinerzeitige Armut der Bevölkerung, die Kraftwerkbauten, die religiösen und ethischen Werte der Gesellschaft, all das kennen wir auch. Ob es allerdings unseren Schriftstellern gelingt, mit so viel Herz und so viel, möchte sagen, Engagement, diese Gedanken vorzutragen, das bleibe dahingestellt. Die Bilder, die Herr Metral uns hier vorgelegt hat, sind außerordentlich. Und ich möchte ihm dafür ganz herzlich danken. Ich glaube, Herr Metral ist wirklich einer von der Unseren. Ja, er gehört zu uns. Und ich danke ihm. Es ist für mich ein unvergesslicher Abend heute gewesen. J'essaie de vite traduire quelques mots, excusez-moi. J'ai dit que qu'on avait vraiment senti que vous soyez un homme extraordinaire, bavalaisant, qui pense à sa façon, mais j'ai constaté que cette façon de penser est à peu près la même qu'on retrouve en Haut-Valais aussi. Vous avez les grands sujets que vous traitez, c'est-à-dire la pauvreté, les barrages, les problèmes du travail, les valeurs éthiques et religieuses sont absolument les mêmes qu'on les retrouve aussi chez nous, chez nos écrivains, nos valets. Il est douteux et ce n'est absolument pas sûr que nos écrivains réussissent de les présenter de la même façon que vous. Je jugeais extraordinaire ce que vous nous avez proposé aujourd'hui. Ça restera pour moi quelque chose d'inoubliable. Surtout votre manière de présenter avec beaucoup de cœur et avec un grand esprit tout ce que nous avons entendu. Merci bien, M. Metral.
Merci.
Ça sera pour nous une soirée inoubliable. Merci. Merci. Herr Metral ist bereit, Fragen zu beantworten. Er ist, wenn Sie also Fragen hätten, können Sie diese stellen. Monsieur Metral m'a dit qu'il répondrait volontiers aux questions que vous avez éventuellement à lui poser. À qui je peux donner la parole pour. Qui c'est qui voudrait demander quelque chose? Alors, madame, s'il vous plaît.
Le titre du dernier livre, Un horizon de bonheur.
Alors, je poserai encore moi-même une question. Comment vous travaillez, monsieur Metral? C'est-à-dire, utilisez-vous aussi un ordinateur aujourd'hui pour travailler?
Alors écoutez, il faut que je reprenne encore deux minutes. Alors, ma manière de travailler, je sais bien que je serai encore resté volontiers pendant une heure à vous raconter de quelle manière je procède pour écrire, pour créer mes personnages, pour les faire vivre, pour les laisser s'autonomiser. Mais comme M. Grichting m'avait dit une heure et quart, j'ai voulu respecter la ponctualité. Et puisque vous m'accordez des prolongations, alors je vais bien m'exécuter. Alors quand j'écris un roman, je ne sais jamais, au départ, quelle est l'histoire que je vais énoncer. Si vous voulez, je crée des personnages parce qu'il faut bien les créer. Mais à partir du moment qu'ils ont une forme, que je les vois, je les laisse aller dans la vie comme ils veulent. Si vous voulez une analogie, je dirais que je procède un petit peu comme une maman qui, pendant sa grossesse, fait beaucoup de projets pour l'enfant qu'elle porte en son sein. Elle le voit peut-être médecin, elle le voit peut-être avocat, Elle le voit peut-être professeur, docteur. Et puis, brusquement, l'enfant vient au monde, les rêves continuent, puis l'enfant grandit. Et il est possible, souvent probable, que les rêves entretenus par la mère ne se réalisent pas, l'enfant prenne un autre chemin et fasse un autre destin. Pour mes personnages, c'est un petit peu la même chose. Je vous citerai l'exemple d'un livre qui s'intitule « Tant que nous vivrons ». Dans « Tant que nous vivrons », j'avais voulu au départ, c'était une idée préconçue, je m'étais dit qu'une fois, il serait bon que je fasse rencontrer un mercenaire, en l'occurrence un rescapé du Vietnam, et une fille d'alcoolique. Et qu'à partir de ces deux naufragés d'une société, il aurait été possible de construire un grand amour. Et j'étais persuadé que l'un et l'autre, en dialoguant, en essayant d'oublier et de se rapprocher, ils parviendraient, même avec d'une femme, depuis l'âge de 15 ou 16 ans, jusqu'à sa mort, à plus de 60 ans. C'est le journal intime d'une femme. C'est une femme qui dit « je ». Le 21 janvier, j'ai ceci, j'ai cela. À tel point, je dis bien à tel point, qu'en écrivant ce journal d'une femme, je suis, au cours des chapitres, je me suis senti devenir une femme. Et quand j'ai terminé le livre, je me sentais tout à fait détenteur et possesseur d'une sensibilité féminine. Il m'a fallu un mois pour redevenir un homme. À tel point le phénomène du mimétisme s'était produit, le personnage m'avait complètement investi. Une autre fois, j'ai écrit l'appel d'histoire qui est le cheminement, le destin d'un malade. Et ce malade, avec lequel j'ai vécu pendant 5 mois, moi décrivant sa maladie, étant en quelque sorte son docteur, pour en revenir au docteur, étant en quelque sorte son docteur, bon, eh bien, la maladie de cet homme, de mon personnage, a fini par déteindre sur moi au point que, quand j'ai terminé le livre, je suis tombé malade et j'ai souffert de la même maladie que lui. Voilà le phénomène de la création littéraire qui fait qu'il y a toujours un passage extrêmement délicat dans la création, c'est que l'auteur ne sait plus, à un certain moment, à un moment capital, l'auteur ne sait plus qui il est du personnage ou de lui-même. Vous connaissez le phénomène de Nietzsche, qui, à force de décrire la folie, a fini par la vivre. Donc, c'est tout à fait le traquenard qui guette un petit peu tous les créateurs. Alors, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'appel d'histoire que j'étais tombé malade, effectivement, malade pendant 2 mois ou 3 mois, la moitié du temps que j'avais mis à écrire le livre, je me suis dit, comment faire pour m'en sortir? Puisque je suis tombé malade à cause d'un livre, tout d'un coup j'ai eu un rayon de lumière, et puis j'ai pensé, mais puisque je suis tombé malade à cause d'un livre, pourquoi n'arriverais-je pas à me guérir grâce à un autre livre? Alors j'ai écrit La Solitaire, qui en allemand porte un très beau titre d'ailleurs, qui s'appelle Alleingang. J'ai écrit La Solitaire, et alors dans cette solitaire, bah, c'est une belle histoire d'amour qui se déroule dans les Alpes. Alors bien entendu, j'ai voyagé dans ce livre. Je suis allé dans les Alpes. J'ai vu la lumière, j'ai vu la santé de l'air, j'ai vu la beauté du ciel et je me suis reconstruit. Et quand la solitaire a été achevée, eh bien j'étais guéri. Vous voyez comment les phénomènes de création se produisent. Il est bien vrai, quand même, il faut que l'aveu se produise. Il est bien vrai que, quelle que soit sa volonté, quel que soit son dessein, le romancier obéit toujours à des sentiments qui lui échappent, mais qui sont des sentiments de racines qui vivent très profondément en lui. Je vous citerai qu'un exemple. Dans tous les livres que j'ai écrits, je n'ai jamais pu flétrir une mère. Les mères, dans mes livres, sont toujours pleines d'abnégation, sont toujours des personnages de foi, de grandeur, de noblesse et d'espérance. Pourquoi sont-elles ainsi? Dieu seul le sait. Et pourtant, de nombreuses reprises, je m'étais promis qu'une fois, il fallait quand même que je dise ce qu'était une non-mère par rapport à une vraie mère, comme on dit une non-valeur par rapport à une vraie valeur. Jusqu'à présent, je ne suis jamais parvenu. En revanche, il y a un phénomène qui va certainement vous intéresser, c'est celui de la relation entre les enfants et les grands-parents. Parce que c'est une relation que j'ai expliquée dans un livre qui s'appelle « Nous avons tous besoin d'amour » et que je trouve que c'est une relation merveilleuse. Ben, quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit à 50 ans, j'avais écrit environ 50 livres, j'avais pu afficher mes diplômes contre la paroi, non pas celle-ci, celle de mon bureau, je m'étais dit que la vie était derrière moi, que je n'avais plus qu'une saison, qu'un morceau de saison devant moi. Et puis, est né mon premier petit-fils. Et quand mon premier petit-fils est né, je me suis dit, ah non, j'ai eu 5 enfants, moi. Enfin, j'ai eu 5 enfants. Alors comme j'ai eu 5 enfants, et que cela m'a causé beaucoup de soucis, dans une société qui était difficile, je ne serai jamais un bon grand-père, surtout que je n'avais pas été un bon père. Et puis, il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est que quand ce premier petit enfant a grandi, quand il a eu 1 an et demi et deux ans, j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler en littérature la Renaissance. Je me suis senti tellement proche de ce petit enfant que j'ai cherché celui que j'avais été afin qu'il devienne son meilleur camarade. Et j'ai écrit tout un livre sur ce que nous avons vécu ensemble. Quand j'étais avec mes enfants, avec mes propres enfants, si l'un de mes enfants m'avait demandé de faire le pitre, jamais je n'aurais accepté. Mon autorité patriarcale en aurait été ravalée, amoindrie, stipendiée. Et puis, si on m'avait demandé de faire le singe, par exemple, jamais un père digne de ce nom n'aurait accepté de faire le singe. Et brusquement, avec mon petit enfant, mon premier petit enfant, eh bien, il est parvenu à me faire faire n'importe quoi. J'ai fait le singe, j'ai fait Cochise, l'Indien. Quand il me disait « Pépé, viens, on va prendre un whisky », eh bien, je partais avec lui prendre un whisky. Quand il me disait « Pépé, tu es mort ?» Alors oui, j'étais mort. Et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de merveilleux dans cette renaissance, parce qu'enfin, je redevenais vrai. Que le père que j'avais été assumait un rôle celui pour lequel il était dévolu, tandis que le grand-père que je devenais, il était libre de tout et il devenait non pas une autorité quelconque vis-à-vis de son petit-fils, mais il devenait son camarade, son complice, à tel point que il n'a jamais eu de questions restrictives vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ses parents peut-être, mais vis-à-vis de moi, nous nous sommes tout dit. Quand il me demandait d'imiter le bruit du train, j'imitais le bruit du train. Quand il me demandait d'imiter un cow-boy au galop, j'imitais le cow-boy au galop. Quand il me demandait de faire du vélo sur son petit vélo, je faisais du vélo sur son petit vélo. Et j'ai trouvé que c'était beau. Alors à une époque, je dis bien à une époque, parce que c'est la nôtre, où on veut déraciner des maisons, les grands-parents, alors c'est un phénomène contre lequel je m'insurge. Parce que je crois que si nous acceptons le fait de déraciner les grands-parents de leur famille, c'est enlever aux enfants, à nos enfants, à mes petits-enfants, c'est enlever ce merveilleux monde de la légende et des contes qui est pour eux le décor même d'une enfance réussie. Vous savez que dans tous les livres qu'on leur a montrés, qu'on leur montre au départ, tous ces personnages bibliques sont des personnages vénérables, sont des vieillards. Et dans les livres, ces vieillards sont des personnages de référence. Alors pourquoi, aujourd'hui, on a tendance de plus en plus à enlever ces personnages vénérables, à enlever ces gens de la sagesse pour les mettre loin de la maison, en quelque sorte pour les évacuer. J'estime qu'il y a là une immense carence de civilisation. Parce que, si à mon sens, la vie est une sphère, derrière la sphère, je crois que les deux seules mains qui réussissent seulement par le contact à créer l'amour, eh bien, c'est la main d'un vieillard, ou plutôt la main d'un enfant, dans la main d'un vieillard.
Il y a encore quelqu'un qui voudrait poser une question. Monsieur Verlaine, s'il vous plaît.
De quoi parlez-vous dans votre dernier livre, Un horizon de bonheur?
C'est une histoire de montagne, d'alpinisme, de montagne. Alors, je ne veux pas vous déflorer, vous savez, c'est une intrigue qui se passe en montagne. Alors, le décor, c'est la montagne. Et puis, le personnage principal, c'est une sorte d'ermite. On va dire que c'est moi, mais ça n'a pas d'importance. C'est une sorte d'ermite qui vit en dehors de la société pour mieux la regarder et pour mieux l'expertiser. Voilà, c'est ça. Alors forcément, si vous dites que c'est moi, ben, moi je ne réponds rien. C'est vous qui décidez. Vous savez, souvent, on m'a posé la question. On m'a dit, j'ai écrit souvent des histoires d'amour, parce que forcément, nous en vivons tous, des histoires d'amour. Pourquoi il arrivait à mon âge, j'ai plus de 60 ans, pourquoi il arrivait à mon âge, on me demande encore. Beaucoup d'étudiants, je reçois peut-être, je ne sais pas, moi 100, 150 demandes d'étudiants de toute la Suisse romande, et même d'ailleurs, qui me demande des notices biographiques et bibliographiques sur mon œuvre. Et alors, beaucoup de questions avec, par exemple, celle-ci, pourquoi à plus de 60 ans, vous écrivez encore des histoires d'amour? Alors, je leur réponds toujours, mais parce que je continue d'en vivre.
Encore quelqu'un? Ouais. demander quelque chose, s'il vous plaît. Monsieur Maitra, vous nous dites encore quelque chose, non? Non. Alors, je pense que c'est ainsi que se termine cette soirée extraordinaire que nous avons vécue ensemble avec Monsieur Maitral. Je remercie Monsieur Maitral de tout ce qu'il nous a dit. Il nous a laissé jeter un coup d'œil dans son intérieur, dans son âme, dans sa méthode de vivre, de travailler et aussi de survivre, je crois, je veux dire. Je crois que cette soirée n'était pas seulement une soirée intéressante, c'était plutôt une soirée émouvante, extraordinaire, c'était aussi une soirée brillante, c'était une soirée véritable. Merci.
Merci.
Monsieur Maitral, je crois que d'ici 2 ans, nous reviendrez peut-être chez nous pour continuer.
Mais avec plaisir.
Vous avez commencé ce soir.
Avec plaisir.
Merci bien.
Avec plaisir.
Je voudrais à la fin encore dire 2 choses. Tout d'abord, j'ai absolument oublié de saluer le gendre de Monsieur Maitral, Monsieur Konrad Senkafinen, au Valaisan. Je m'excuse. Merci, Monsieur Konrad, que tu nous as amené ton beau-père ici. Merci. De plus, j'aimerais inviter les membres du Vortragsverein de Brieg de bien vouloir noter déjà la date du 8 juin 1991 pour notre voyage à Lucerne, Schwitz et Altdorf. On a dû renvoyer cette date. On a prévu le 1er juin, mais ce n'est plus possible parce qu'il y avait des difficultés, certaines difficultés. Et puis, c'est donc le 8 juin. On vous écrira encore. Merci bien à tous. Bonne rentrée et merci d'avoir assisté à cette soirée extraordinaire. Encore une fois, merci bien.
Merci à vous.
Voilà.
Qu'est-ce que j'aurais pu manger? Oh, ils sont attentifs, j'aurais pu faire 1 heure de plus.
Hein. Je sais.
Mais vous savez, le problème est là, je n'ai pas voulu accabler.